Le journal de la rédaction vous est présenté par Tara Schlegel. Bonjour Tara.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. La baisse des cotisations sociales sur les salaires aura lieu en deux fois. Le gouvernement veut gagner du temps. Explication de Marie Viennot. En Angola, le président Dos Santos se retire et choisit son successeur. Élection aujourd'hui, nous serons en direct de Luanda avec Sonia Rollet. Et puis, dans le reste de cette édition, les Américains Walmart et Google qui s'allient contre Amazon. Et cette vidéo choc qui montre une agression sexuelle dans un bus au Maroc. Une manifestation est prévue ce soir. À 12h45, la grande table d'été avec vous, Géraldine Mosna-Savoie, et au menu.
Eh bien, au menu aujourd'hui, Tara, une grande table autour de la rentrée littéraire, une première table ronde autour des temps composés de l'Algérie, avec Alice Zénitaire pour L'Art de perdre, qui paraît aux éditions Flammarion, et Kauter Adimi pour Nos richesses, qui sort pour sa part aux éditions du Seuil. Et en seconde partie, un portrait, celui de Sophie Fontanelle, écrivain, journaliste, son roman Une apparition paraît justement aux éditions Robert Laffont.
À tout à l'heure, Géraldine. C'est un léger report de quelques mois qui pourrait bien coûter cher aux salariés et peut-être au gouvernement. Bercy confirme que l'augmentation de la CSG se fera bien dès le début de l'année prochaine, mais parallèlement, la baisse des cotisations sociales promises aux salariés, qui devait fonctionner comme une sorte de transfert, va se faire en deux temps. Autrement dit, la CSG ne sera sans doute pas compensée intégralement dès le mois de janvier. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour Tara.
C'est une information des Échos qui confirme donc que cette réforme fiscale aura bien lieu. C'est une promesse du président Macron. Elle devait normalement se traduire par une hausse du pouvoir d'achat des salariés. Il va falloir attendre un peu.
Oui, pendant sa campagne, Emmanuel Macron a promis de faire passer la CSG de 7,5% à 9,2%, ce qui fait 1,7 point d'augmentation, et parallèlement de supprimer les cotisations salariales sur l'assurance chômage et la maladie, qui représentent 3,15%. 1,7 de hausse pour 3,15 de baisse. Cela doit donc se traduire par une fiche de paye un peu plus étoffée, mais seulement pour les salariés du privé, car ils sont les seuls à payer ces cotisations maladie et chômage. En revanche, tout le monde paye la CSG, fonctionnaires, retraités, invalides, chômeurs et actionnaires. Ce que révèlent les Échos ce matin, et Bercy l'a immédiatement confirmé dans un communiqué envoyé à 7h44, c'est que la hausse de la CSG sera bien effective au 1er janvier, mais en revanche, la suppression des cotisations, elle, on ne sait pas quand elle aura lieu. En gros, donc, on sait ce qui augmente et quand, mais pas ce qui baisse et doit donner du pouvoir d'achat. Bercy assure quand même que la baisse sera plus forte que la hausse dès le 1er janvier et qu'au total, donc, il y aura bien un gain pour les salariés du privé, mais il confirme aussi que cette baisse sera morcelée.
Alors il faut, Marie, souligner que la CSG rapporte déjà beaucoup d'argent à l'État.
Oui, plus précisément au compte de la Sécurité sociale. Aujourd'hui, la CSG, c'est 90 milliards d'euros. Devant, il y a la TVA, 150 milliards. L'impôt sur le revenu n'arrive que troisième avec 70 milliards. La CSG a le double avantage de s'appliquer à tous et d'avoir un taux faible. En tout cas, au début où il était inférieur à 2%. Du coup, il rapporte beaucoup sans qu'on le sente passer. C'est l'impôt qui plume loi en évitant les cris, pour reprendre une formule attribuée à Colbert, ministre des Finances de Louis XIV. Son défaut, c'est qu'il n'est pas progressif. Son pourcentage ne dépend pas des revenus. Il va donc falloir attendre les détails du projet qui seront présentés en septembre au moment du projet de loi de finances pour savoir comment, notamment, les petits revenus du chômage, des retraites et des invalidités seront touchés.
Merci Marie Viennot. Il ne faudrait pas demander aux Français des sacrifices qui ne sont pas utiles. Premier commentaire politique de François Hollande depuis qu'il a quitté l'Élysée, c'était hier à Angoulême. Un petit tacle très remarqué à l'endroit de son successeur, mais c'est aussi une façon pour l'ancien président de défendre son propre bilan. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
Et on peut comprendre l'envie qui taraude François Hollande de faire remarquer aux Français que son quinquennat a eu quelques conséquences positives en matière d'économie. C'est vrai, Frédéric, que les voyants sont passés plutôt au vert ces derniers mois.
Oui, un chômage qui est redescendu à son niveau de 2012, une croissance qui repart, et si l'on accepte la balance commerciale qui reste le point noir de l'économie française, alors effectivement, ça va mieux. Ça va mieux, c'était d'ailleurs l'une des phrases fétiches de François Hollande au cours de ses interviews, qui ressemblait alors davantage à de la méthode Coué, qui s'apparente désormais à une forme d'anticipation de la réalité. Oui, mais qui est responsable? Tout au long de l'été, le gouvernement actuel a multiplié les déclarations pour s'arroger ses bonnes nouvelles, à l'image de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Les macronistes voient dans ces chiffres un choc, un effet du choc de confiance créé par l'élection du nouveau président, réputé favorable favorables à l'économie et aux entreprises, les Hollandais, eux, discernent les fruits de la politique menée pendant 5 ans par François Hollande, pro-entreprise, pro-business, comme l'avait dit Manuel Valls auprès de l'université d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas, avec des mesures comme le CICE, le crédit de compétitivité emploi. Quand les économistes, eux, troisième acteur de ce dossier, pointent la reprise mondiale qui tire évidemment la croissance française. Alors si François Hollande tient tant à défendre son bilan économique, c'est aussi qu'il avait été sérieusement écorné par la droite. Budget insincère, dépenses cachées, avait tonné Édouard Philippe, le Premier ministre, au début du mois de juillet, pour justifier les coupes budgétaires. Alors on peut remarquer que François Hollande avait promis de ne pas s'exprimer publiquement pour ne pas gêner son prédécesseur. Lui-même avait subi la même chose de Nicolas Sarkozy. Oui, sauf qu'il n'avait pas précisé jusqu'à quand.
Merci Frédéric Saïs, le successeur de François Hollande. Lui s'envole plutôt tout à l'heure pour Salzbourg, tournée autrichienne, puis roumaine et bulgare. Pour le président de la République, Emmanuel Macron espère une avancée sur le dossier très sensible des travailleurs détachés, ces centaines de milliers de salariés employés dans un autre pays européen que le leur, mais dont les cotisations sociales sont bien payées dans leur pays d'origine. Cette directive qui date de 1996 s'est transformée peu à peu en outil de dumping social. La France, mais aussi l'Autriche et peut-être l'Allemagne plaident pour une réforme. Enfin, à Paris, suite aussi aujourd'hui des négociations sur les ordonnances qui visent à modifier le code du travail, les syndicats sont reçus ce mercredi. Au Maroc, c'est la vidéo de la honte, celle qui provoque beaucoup de remous et qui devrait mobiliser du monde ce soir en solidarité avec une jeune femme victime d'une agression sexuelle dans un bus. Les faits se sont passés à Casablanca il y a 3 mois, mais ils ont été filmés et ils circulent sur Internet depuis dimanche. Des images qui interrogent forcément sur la place des femmes dans la société marocaine. Sur place, le récit de Joanne Longuépée.
La vidéo a été retirée, elle était insupportable. On y voit 4 ou 5 adolescents agresser une jeune fille au fond d'un bus. Soutien-gorge baissé, jean déboutonné, elle hurle et se débat en vain pendant que ses agresseurs rient. Le chauffeur continue de rouler, on ne voit pas s'il y a d'autres passagers. La scène a provoqué une vague d'indignation sur Internet, dans les médias, parmi les associations et les intellectuels. Certains ont quand même trouvé des excuses aux agresseurs. Que faisait cette jeune fille au fond d'un bus avec des garçons? Sa tenue n'était-elle pas provocante? Leurs posts sur les réseaux ont aussi été dénoncés. Mais au-delà de l'indignation, cette affaire a soulevé des questions sur la faillite de l'éducation des jeunes ou sur l'image et la place de la femme dans la société marocaine, sur la tolérance qui peut aussi exister vis-à-vis de ces agressions sexuelles. D'autant qu'elle intervient quelques semaines après une autre vidéo qui avait fait scandale et montré une jeune fille harcelée dans la rue par une bande de jeunes à Tanger. Au Maroc, selon une étude du Haut Commissariat au Plan, plus de 2 femmes sur 10 ont subi un acte de violence sexuelle à un moment ou un autre de leur vie, un chiffre qui dépasse les 60% si l'on inclut toutes les formes de violence physique, psychologique ou économique.
Joanne Longuépée à Casablanca, et 6 suspects ont été arrêtés dans la banlieue de la ville lundi. Ces garçons ont entre 15 et 17 ans. De l'influence politique à la puissance économique d'Internet, avec cette nouvelle qui pourrait bouleverser le paysage de l'e-commerce, autrement dit de la vente en ligne. Walmart, le géant de la grande distribution aux États-Unis, l'enseigne possède plus de 11 000 magasins physiques dans 28 pays et concurrencerait forcément et férocement depuis des mois par Amazon, dont le développement est spectaculaire. Et le groupe Walmart a donc décidé de se lancer dans une contre-offensive. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Tara.
Walmart va s'allier avec Google pour développer un nouveau type d'achat en ligne qui pourrait effectivement changer la donne.
Oui, face à l'évolution des consommateurs qui délaissent de plus en plus les magasins physiques au profit du commerce en ligne, le numéro 1 mondial de la grande distribution se devait de réagir. D'autant qu'Amazon se lance lui aussi dans l'alimentaire, puisqu'il vient de racheter une enseigne spécialisée dans le bio, Whole Foods. Et donc concrètement alors, Walmart commercialisera dès septembre des centaines de milliers de produits sur Google Express, qui est la plateforme de livraison à domicile du célèbre moteur de recherche. Walmart espère ainsi faire gagner du temps à ses clients, notamment ceux qui délaissent les magasins au profit de leur écran d'ordinateur. Ils pourront passer commande en ligne, mais aussi en utilisant leur voix via une application de Google, ce qui sera très pratique pour les clients handicapés, notamment les non-voyants. Cette alliance doit aussi permettre à Walmart de rattraper son retard sur son concurrent Amazon, car avec 43% des ventes vente sur Internet, Amazon reste le leader incontesté et incontestable du commerce en ligne aux États-Unis. Enfin, avec ce partenariat, Walmart souhaite aussi tirer profit du savoir-faire des milliers d'ingénieurs de Google, notamment dans certains secteurs comme l'intelligence artificielle, pour mieux analyser le comportement de ses clients, notamment via les algorithmes, ce que maîtrise déjà Amazon, qui lui est spécialisé depuis longtemps dans le commerce en ligne. Enfin, cette alliance va aussi permettre à Walmart de racheter aussi les startups pour rattraper son retard en ce qui concerne l'intelligence artificielle ou encore la réalité augmentée.
Merci beaucoup Hakim Kasmi. Cette vente aux enchères en ligne justement qui se déroule depuis l'Afrique du Sud. John Hume, un éleveur qui possède 1500 rhinocéros, c'est le plus gros ranch au monde, va proposer aujourd'hui la vente de 264 cornes de rhinocéros, et ce jusqu'à vendredi. Or, le commerce des cornes de rhinocéros est illégal. John Hume a multiplié les recours juridiques et Pretoria a été contraint, donc le gouvernement sud-africain, de lui accorder un permis de vente exceptionnel. L'objectif de cet éleveur est de légaliser la vente des cornes de rhinocéros, ce qui tarirait, pense-t-il, le marché noir et pourrait potentiellement sauver quelques 1000 pachydermes abattus chaque année par des braconneurs en Afrique du Sud. Seulement, les défenseurs du rhino n'y croient pas. Tanguy Salin milite pour l'ONG Save the Rhino International.
Aujourd'hui, la corne est très chère, donc il n'y a pas trop de consommateurs. Mais si demain on baisse le prix de la corne, le nombre de consommateurs peut exploser. D'autre part, il y a des réseaux criminels. Ils vont pas renoncer à leur part du gâteau sous prétexte que d'un seul coup on introduit des cornes légalement. Enfin, on estime que le kilo de corne se vend entre 50 000 et 60 000 dollars. Mais le kilo d'ivoire des éléphants ne vaut que 2000 dollars. Et ça n'empêche que les éléphants sont braconnés encore plus que les rhinocéros. Donc il ne suffit pas de baisser les prix, même de manière significative, pour dire que d'un seul coup, le braconnage va arrêter. Et puis, il y a un autre problème dans la démarche de John Hume, c'est que lui parle des rhinocéros d'élevage, dont il coupe les cornes tous les 2-3 ans, puisque la corne repousse, c'est de la kératine, comme nos cheveux, comme nos ongles. Mais qu'en est-il des rhinocéros sauvages, qui sont les plus menacés? Ces rhinocéros ne bénéficieront absolument pas du genre de protection que peut garantir John Hume aux siens, avec l'argent éventuel de ce genre de vente.
Voilà, une interview réalisée par Martin Delacoux. Et si 1000 rhinocéros sont abattus chaque année en Afrique du Sud, eh bien les éléphants sont eux encore plus menacés pour leur ivoire. Un tiers des éléphants a disparu des savanes africaines depuis 2007, dit le dernier recensement qui date de 2016. Et la semaine dernière, Wayne Lotte, un homme qui avait consacré sa vie à la défense des éléphants en Tanzanie, a été abattu. Il avait 51 ans. L'Angola appelé aux urnes ce mercredi. 9 millions d'électeurs vont choisir un successeur au président sortant, José Eduardo dos Santos, qui s'est maintenu autoritairement au pouvoir depuis 1979 et qui a bien préparé sa sortie. Selon toute vraisemblance, c'est le candidat du MPLA, le parti État qui tient tout le pays, qui doit l'emporter. Il s'agit d'un ancien général, lui-même ex-ministre de la Défense. Nous devions être en ligne avec Sonia Rollet en direct de Luanda, mais malheureusement nous n'arrivons pas à la contacter. Toujours en Amérique latine, Luisa Ortega, l'ancienne procureure du Venezuela, est arrivée au Brésil ce matin. Elle a bien l'intention d'y parler de la corruption du président Maduro. Elle a, dit-elle, des documents avec elle, probablement lors d'une conférence de presse qui doit se tenir à la mi-journée au Brésil. Le président du Venezuela, M. Maduro, lui, a annoncé qu'il allait lancer un mandat d'arrêt international contre la magistrate devenue sa principale opposante. Et puis en bref, encore le meeting de Phoenix en Arizona hier. Donald Trump a rassuré sa base. Il souhaite toujours construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et puis le président américain a jugé parfait ses propres propos après le drame de Charlottesville. C'était en Virginie. Ce sont les journalistes qui ont déformé mon discours, a-t-il dit. Il a été reproché à Donald Trump d'avoir renvoyé deux ados, les manifestants antiracistes et les suprémacistes blancs qui ont causé la mort d'une militante à Charlottesville. Voilà, avec donc un tout petit peu d'avance, je vais vous rendre bientôt la parole, Géraldine Mosna-Savoie. Juste un mot du ciel avec un typhon Ato qui a déjà provoqué la mort de 3 personnes à Macao. Aujourd'hui, le territoire voisin de Hong Kong est placé en état d'alerte maximale. On attend des vents qui devraient souffler jusqu'à 207 km/h. Donc des vents en rafale extrêmement et potentiellement meurtriers. Le temps en France sera beaucoup plus clément avec des températures estivales. C'est la fin de cette édition préparée avec Yacine Bouzard.